ressources humaines, publicité, communication, des licenciements qui concernent pour le moment uniquement des cols blancs. Ce repositionnement, le patron d'Amazon le préparait depuis des mois déjà.
Comme pour toute transformation technologique, certains emplois automatisés par la technologie seront moins occupés. Mais pour d'autres, nous recruterons davantage de personnes, comme dans les domaines de l'IA et de la robotique.
Avec le développement de l'intelligence artificielle, les expérimentations se multiplient dans le monde. Sur ces images tournées en Grande-Bretagne, des collégiens suivent des cours prodigués par une IA. Pour l'instant, un adulte, appelé coach et non plus professeur, reste dans la salle.
Les systèmes d'IA peuvent vous dire ce que l'élève sait et ce qu'il ne sait pas, avec un degré de précision supérieur à celui de l'enseignant moyen.
En France, pas question de présenter l'IA comme pouvant remplacer les humains. Le gouvernement parle plutôt d'un outil qui va aider à améliorer, je cite, l'efficacité administrative.
L'intelligence artificielle, oui, c'est un plus parce que pour ces sujets, donc comme le traitement des demandes de permis de construire ou le traitement des délibérations, ça permet de faire gagner du temps aux agents.
Alors, le gain de temps généré par l'IA ne va-t-il pas conduire à une révolution du monde du travail ? Réaffectation des forces ou suppression des postes, le développement de l'IA ne menace-t-il pas nos emplois ?
Celui de Beth Galetti, la vice-présidente en charge des ressources humaines chez le géant américain du commerce en ligne Amazon. Cette génération d'intelligence artificielle est la technologie la plus transformative que nous ayons vue depuis Internet. Et elle continue, les réductions que nous annonçons aujourd'hui s'inscrivent dans la continuité des efforts pour devenir plus fort encore en réduisant davantage la bureaucratie. Avec d'autres licenciements attendus en janvier, 10% des effectifs d'Amazon hors entrepôt pourraient être touchés, la pub, les ressources humaines, les services. Céline Antonin, est-ce qu'on peut parler effectivement d'un tournant ?
Alors moi je dirais que c'est plutôt l'ébauche d'une transformation et qu'on a vu en fait à plusieurs reprises. C'est pas la première annonce de licenciement qu'on a pu observer. On a vu que voilà dans des services informatiques etc. Donc on voit que dans différents secteurs on a effectivement des licenciements. On a d'ailleurs le Forum économique mondial dit que en fait 41% des entreprises d'ici 2030 envisagent aussi de supprimer des emplois.
Donc presque une sur deux.
Voilà donc on a effectivement ces chiffres qui sont alarmants. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec l'IA, comme d'ailleurs avec d'autres évolutions industrielles, on a en fait deux effets. On a un premier effet qui est la substitution. En fait, il faut raisonner en termes de tâches sur les emplois. Vous avez certaines tâches qui vont être substituées par la machine et donc qui vont être amenées à disparaître et ça peut faire disparaître des emplois. Et par ailleurs, vous avez aussi des tâches qui vont être complétées par la machine. Donc sur certaines tâches, vous allez gagner du temps et ça va permettre de développer d'autres tâches et donc d'avoir des emplois qui se développent. Je pense qu'à ce stade, en fait, il faut être très prudent parce que c'est vrai que je ne suis pas non plus une techno-optimiste. Je pense qu'on ne sait pas du tout encore quelle va être la comptabilité, si on va avoir plus d'emplois créés ou détruits, mais je pense qu'il ne faut pas occulter le fait que d'un côté il y a des destructions et de l'autre il y a aussi des potentialités de développement. Oui. Mais peut-être qu'à court terme on peut voir plus de destructions que de créations, ça
alors,
c'est une possibilité.
Pour rester sur le constat, d'abord Yaya Fala, vous qui êtes chef d'entreprise, comment ça se passe dans les PME ? Est-ce qu'on a recours aussi à l'IA ou est-ce que ça concerne d'abord que ces grands groupes ?
On y a recours de plus en plus. Nous, on est plutôt optimistes. Je veux dire, toutes les évolutions, quand on regarde l'histoire, toutes les évolutions et les innovations technologiques, à la fin, créent de la valeur en réalité. Et effectivement, nous, on a vu ces dernières années des métiers chez nous qui se sont transformés. Plus récemment, un exemple très concret qu'on a, on a notre responsable administratif et financier, qui était un excellent collaborateur d'ailleurs, qui est parti. Au début, on pensait le remplacer. Finalement, on ne l'a pas remplacé. Et pour autant, aujourd'hui, on est plus nombreux que l'année dernière en termes de nombre de collaborateurs. Donc en fait, il y a une transformation ici. On fait des économies assez importantes en automatisant, en utilisant l'intelligence artificielle, etc. Mais ce qui permet en fait de nous repositionner sur des tâches encore à plus forte valeur ajoutée dans l'intérêt de nos entreprises. Et surtout, le point intéressant ici, pourquoi il ne faut pas en avoir peur, c'est que nos propres collaborateurs, même les plus jeunes aujourd'hui, arrivent à faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça accélère leur carrière aussi.
Alors, on va en parler des jeunes d'abord, mais une question de Marion.
Mathieu Slama, est-ce que finalement, c'est une révolution industrielle ? Est-ce que c'est la révolution, tout simplement ?
Oui, alors, il y a une dimension révolutionnaire dans l'IA, mais aussi inquiétante au regard de ce qu'on voit aujourd'hui. Et j'entends, moi, tout à fait les arguments qui sont donnés sur le
plus
fait
que... Plus de postes créés.
Voilà, absolument. J'entends tout ça, et en effet, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Mais aujourd'hui, le fait est que Amazon annonce une suppression de... et pas une petite suppression de postes, hein, c'est des milliers de postes supprimés. Nestlé annonce des suppressions de postes. Accenture annonce des, des suppressions de postes. Goldman Sachs annonce des suppressions de postes. Microsoft annonce des suppressions de postes. Donc aujourd'hui, pour l'instant, l'IA, c'est lié à des suppressions de postes.
Et c'est quel nouveau, pardon, c'est l'automie, c'est parce que ça concerne la, la production d'idées.
Oui, c'est notamment. C'est-à-dire que c'est des métiers de col blanc, entre guillemets, de bureau, etc., qui sont concernés. Donc c'est ça aussi la, la, la nouveauté. C'est pas des, des métiers d'usine ou quoi que ce soit. Il y avait une publicité l'année dernière d'une, d'une boîte d'IA qui s'appelle Artisan aux États-Unis et qui disait en gros choisissez l'IA parce que les IA ne demandent pas d'arrêt maladie. Et en fait, je pense que le cœur, il faut quand même être méfiant quand on, dans le système capitaliste sur la manière dont les entreprises vont utiliser l'IA. Parce qu'en effet, les IA ne demandent pas d'arrêt maladie. Les IA ne tournent pas aux 35 heures, aux 39 heures ou que sais-je encore. Les IA ne prennent pas de pause déjeuner. Les IA ne prennent pas de vacances. Elles n'ont pas de droit du travail associé. Elles ne se révoltent pas. Elles ne sont pas. Les IA ne sont pas syndiquées. Donc en réalité, il faut aussi voir que l'IA pour les entreprises, ça peut être aussi un peu une manière de réaliser un peu ce vieux rêve capitaliste qui est de se débarrasser de l'humain, de se débarrasser de ce qui va avec l'humain, c'est-à-dire les droits, le respect des conditions de travail, etc., pour aller vers un maximum de profit. Et ça, c'est aussi un risque qu'il faut prendre en compte.
Rapidement, se débarrasser de l'humain.
Non, mais alors, c'est pour ça qu'il faut que l'IA reste un outil et que c'est à nous aussi d'instaurer les réglementations et tout ce qui va avec pour ne pas, par exemple, est-ce qu'on a envie d'être licencié par une IA ? Je veux dire, par exemple, est-ce qu'on n'a pas envie qu'il y ait un humain qui intervienne ? Est-ce qu'on a envie d'être jugé par une IA, d'être soigné par une IA ? Donc tout ça, c'est nous, en tant que citoyens aussi, qui devons le décider. Et moi, je suis très en faveur du fait que l'IA doit rester notre outil et qu'on doit rester maître de cet outil. Mais en revanche, c'est vrai que ça permet aussi de faire des gains de productivité. Et donc, sur l'effet sur l'emploi, j'aurai l'occasion peut-être d'y
revenir. Oui, on va y revenir.
Voilà, mais en tout cas, il est certain qu'il faut rester très vigilant parce qu'on peut en faire le meilleur comme on peut en faire le pire.
Alors, et vous parliez, Yafala, tout à l'heure, des jeunes. Alors, on va se demander avec vous, Fanny, si l'IA peut affecter en priorité la nouvelle génération, les jeunes diplômés.
Bien oui, d'après une étude du site de recrutement Indeed, la moitié des employeurs français estiment qu'il est plus facile de former une intelligence artificielle que de recruter un jeune diplômé, en particulier dans les secteurs de la finance, de l'éducation ou du commerce, par exemple. Aux États-Unis, l'IA a déjà commencé à remplacer ces jeunes diplômés, d'après l'étude menée par trois chercheurs de l'université de Stanford, en Californie. D'après eux, l'emploi des 22-25 ans a baissé dans des professions qui sont très exposées à l'intelligence artificielle, par exemple le service client, où ces jeunes ont été remplacés par les robots conversationnels qu'on appelle des bots, ou par exemple chez les développeurs de logiciels dont les effectifs ont chuté de 20% en 2 ans et demi. Hier, le patron du site d'information Axios alertait d'ailleurs les Américains sur leur choix de carrière.
If you're in one of those jobs, or if your kid is going to school and considering those professions, you've got to be thinking about this. You have to be thinking about how can I do that job if artificial intelligence can do it for free or do it better.
Et Yafala, vous parliez tout à l'heure effectivement des jeunes. Comment on explique que l'intelligence artificielle ait un impact en particulier sur leur poste, leur travail à eux ?
La vraie question, c'est de savoir où, comment est-ce qu'on doit former les plus jeunes, c'est-à-dire quels sont les métiers sur lesquels ils peuvent créer une valeur significative. Je pense que c'est une excellente nouvelle quand on voit des tâches à faible valeur ajoutée, parfois pas très épanouissantes, ou des métiers qui ne sont pas toujours très épanouissants, être remplacés par de l'automatisation, parce que ce n'est pas que de l'intelligence artificielle ici, par de l'automatisation ou de l'IA ou des machines. Je pense que c'est une excellente nouvelle. La vraie question à se poser derrière, et le phénomène qu'on est en train de voir arriver pour les jeunes ou les moins jeunes, c'est notre rapport au travail. Comment est-ce qu'on doit former les individus ? Sur quel métier est-ce qu'on doit les former demain pour qu'ils trouvent des emplois, etc., etc. On voit les innovations qui arrivent de manière plus en plus rapide. Donc se pose aussi la question d'être capable de se réinventer durant toute sa vie, d'apprendre à apprendre. On entend souvent ce terme aussi qui est majeur. Donc c'est une question à se poser individuellement chacun et aussi à se poser collectivement.
Oui, mais Mathieu Sama, est-ce que ça pose la question des études ? Après ce que vient de dire Fanny, est-ce que du coup, il y a des jeunes qui nous écoutent, ils disent « Mais bon, est-ce que j'ai besoin de faire des études alors que je vais avoir un assistant au quotidien ?» Ça fait partie du débat ?
Oui, absolument, ça transforme absolument tout parce que, évidemment, les compétences changent, le rapport même à l'entreprise et à son job en tant que tel change complètement. Ça révolutionne tout. Je veux dire, même, je suis un peu hors sujet, mais par rapport aux études, aux étudiants, aux élèves, etc., je veux dire, c'est fini les devoirs à la maison. D'ailleurs, ça, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais donc, pour revenir au sujet, en effet, ça révolutionne tout. La question, c'est en effet, les dangers que ça représente par rapport aux travailleurs qui vont rester au sein de l'entreprise. Parce que si c'est pour faire des métiers d'assistance par rapport à l'IA, d'une part, ça réduit considérablement le sens du travail. Et ça, déjà qu'il y a une vraie questionnement autour de ça, notamment dans la jeunesse, si les humains deviennent des sortes d'assistants de l'IA, on a un vrai problème. Il y a l'autre problème aussi, c'est par rapport au RH, c'est-à-dire que il y a aux ressources humaines, puisqu'il y a ce mouvement de l'IA au sein des RH. Si on se retrouve avec des entreprises dont les ressources humaines, mot d'ailleurs absolument horrible, sont gérées par une IA, alors là aussi on est dans une déshumanisation totale, et c'est quand même ça le risque que je vois par rapport à l'IA. En revanche, de la même manière, par exemple, que je pense qu'on ne va pas se plaindre si jamais demain le métier de caissière disparaît complètement parce que c'est un métier très déshumanisant et très difficile. Il y a évidemment des métiers pénibles ou des métiers, en effet, qui ne sont pas forcément à très grande valeur ajoutée. S'ils disparaissent avec l'IA, on ne va pas forcément s'en désoler.
Même si certains nous diront qu'il y a du lien.
Voilà, la question centrale, ça sera, je pense, après, c'est vraiment vers quoi on dirige l'IA. C'est, est-ce qu'on décide de mettre de l'humain dans l'IA, ou est-ce qu'on en fait un pur outil de productivité et de profit, quoi, voilà.
Céline Antonin, vous vouliez réagir. Je voulais juste réagir à ce que vous disiez, puisque vous citiez l'étude de Bridgelson et vous vous demandiez effectivement qu'est-ce qui fait que ce sont les plus jeunes. Alors, une des raisons qui est évoquée dans cette étude, c'est le fait que, effectivement, les seniors, en fait, quelque part, on valorise leur expérience du travail, que n'ont pas les juniors. Et en fait, c'est ça qui pose du coup problème, c'est que c'est problématique que les jeunes n'arrivent pas à s'insérer, et c'est pour ça que la formation est particulièrement importante, parce que de toute façon c'est quand même un moment crucial, le moment où vous arrivez à acquérir cette expérience professionnelle et ces fameux soft skills, donc ces fameuses compétences.
C'est la revanche des seniors en quelque
absolument
sorte.
Absolument. Par ailleurs, les seniors peuvent être aussi dépassés par le fait qu'ils n'ont pas grandi au moment de l'avènement de l'IA, donc voilà. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que cette étude, elle est intéressante parce qu'elle montre ça, justement, l'importance de l'expérience acquise.
Et on parlait tout à l'heure des caissières, et c'est vrai qu'en fait, cette révolution, elle va s'appliquer pas seulement au secteur de la tech, mais aussi à tous les secteurs, y compris la grande distribution. Et c'est ce que disait notamment en février dernier le patron de la chaîne américaine d'hypermarché Walmart.
There's going to be so much change happening as it relates to technology, and I think we'll do a good job of leveraging generative AI and leveraging physical automation and doing the other things so that we can be relevant to people in the future. So it's turned into this different business model, and I think, you know, what happens over time when technology gets applied is that all the jobs change, and that's what's happening. We're morphing into something else, kind of right before our eyes.
Yaya Fala, vous entendez ce qu'il dit? En fait, tous les emplois vont être touchés, vraiment tous les emplois.
Je pense qu'à terme, effectivement, beaucoup d'emplois, une grande majorité des emplois au fur et à mesure du temps vont être touchés, soit directement aujourd'hui les cols blancs, les gens qui travaillent au bureau avec un ordinateur parce que les LLM, etc. Passent par ces outils-là. Déjà aujourd'hui et demain avec la robotique, d'autres emplois plus manuels vont être touchés aussi. Maintenant, est-ce qu'il faut en avoir peur? Ma conviction personnelle en tant qu'entrepreneur aussi, c'est non, ce sont des opportunités exceptionnelles à saisir collectivement pour la société. Il faut les saisir parce que derrière, ce qui va rester, ce qu'on peut développer, etc., c'est l'humain. La relation humaine, par exemple. Si aujourd'hui, un individu...
C'est paradoxal, du coup.
Non, justement.
Parce que là, ce que les gens disent, c'est du profit. On va vers l'IA parce qu'on veut faire plus de profit.
Non. C'est pas ce que j'ai entendu. Ouais. Moi, c'est pas ce que j'entends. J'entends qu'il y a des tâches qui vont être mieux effectuées par l'intelligence artificielle, et les entrepreneurs, les entreprises, les travailleurs, les salariés eux-mêmes vont s'interroger, vont être formés sur comment ils peuvent se positionner. Et c'est là où je dis on peut remettre l'humain au centre. C'est-à-dire un collaborateur, aujourd'hui, qui passe son temps à saisir, créer des devis, etc. Si demain une IA ou une automatisation peut le faire, ce collaborateur peut être formé, accompagné pour passer plus de temps avec les clients dans cette case. Je vous prends un exemple très précis quand même pour être très concret.
Oui.
Aujourd'hui, pour préparer cette émission par exemple, vous nous avez appelé, vous nous avez interviewé par téléphone, vous nous avez demandé ce qu'on faisait, etc. Si demain avec une intelligence artificielle, vous pourriez aller chercher automatiquement les informations sur nous, avoir une fiche qui est préparée au moment où vous allez nous appeler, etc. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus précis sur vos propres notes, etc. sur nous. Voyez. Et là, vous allez être beaucoup plus productif.
Du
coup, du coup. Non, mais
et on peut faire des imperfections.
Je remets pas en question la qualité de votre travail. Je dis que vous allez pouvoir le faire plus vite et plus efficacement. Et donc, les gens qui nous appellent pourront encore davantage se concentrer sur cette relation et sur l'humain. Voyez, il y a de la valeur à créer partout, et c'est de cette manière-là, je pense, qu'on doit apprendre approcher ce sujet-là et pas sous la peur ou la crainte.
Mais Céline Antonin, en attendant, ce dont on parle, c'est quand même des entreprises comme Amazon qui sont bénéficiaires ou comme, qui licencient des gens, comme Walmart qui disent pendant plusieurs années on est bénéficiaire mais on va n'embaucher personne. On ne voit que la casse à ce jour.
Oui, alors aujourd'hui on voit que la casse, mais c'est vrai qu'il faut déjà faire une différence entre le court terme et le moyen terme. Alors c'est vrai que dans toutes les révolutions industrielles, vous pouvez avoir à court terme un effet négatif avant de voir aussi des créations d'emplois.
Destruction créatrice.
Oui, alors c'est un peu l'idée de la destruction créatrice. Mais juste pour vous donner un exemple, vous avez un économiste, David Autor, qui vous dit 60% des professions qui existent aujourd'hui n'existaient pas en 1940, par exemple, pour vous donner une idée. Donc il y a aussi des professions qui apparaissent. Mais juste pour donner peut-être un chiffrage, plusieurs organismes se sont amusés à chiffrer. Alors ce qui est compliqué avec l'IA, et notamment l'IA générative, c'est que c'est très récent. C'est 2022, et c'est aussi ce qu'il faut souligner dans cette révolution, c'est qu'elle est très rapide et beaucoup plus rapide que ce qu'on a connu jusqu'à présent.
Générative, expliquons concrètement, c'est-à-dire que par exemple dans une agence de pub, on va demander à l'intelligence artificielle de fabriquer une publicité, on va demander à une agence artificielle de fabriquer une couverture de livre.
Tout à fait, ou de fabriquer un reportage pour un journal télévisé par exemple. Donc voilà, c'est ça, c'est donc l'utilisation de cette intelligence. Mais donc c'est 2022, alors les économistes en général, quand ils cherchent à quantifier un phénomène, ils regardent ce qui se passe avant et après, mais là on n'a pas assez de recul. Donc ce qui est fait, c'est que là, ce que font les organismes, ils regardent ce qui peut être de façon prospective, et donc quelles sont les tâches qui peuvent être remplacées dans des emplois et celles qui peuvent être au contraire augmentées, c'est-à-dire celles qui vont être faites par la machine, mais qui vont permettre de libérer du temps. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, il y a un tiers des emplois, c'est ce que dit le Bureau international du travail, un tiers des emplois qui sont exposés à l'intelligence artificielle, ce qui est énorme, mais il n'y aurait que 6% qui seraient potentiellement remplacés. Donc en fait, 6% des emplois, c'est à la fois beaucoup et à la fois c'est pas si immense que ça. Donc voilà, après les chiffrages peuvent varier, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Il est vrai qu'il y a aussi beaucoup de, comme vous le disiez, il y a aussi beaucoup d'emplois qui vont être améliorés par le fait que vous pouvez automatiser certaines choses et vous développer sur certaines
choses. Automatiser les choses. On va remonter un peu en arrière pour s'interroger sur l'impact du progrès sur la charge de travail. Retour en 2009, quand les supermarchés ont commencé à être équipés en caisses automatiques. C'est notre archive du jour.
Depuis l'installation du système, les caissières sont devenues des hôtesses. La différence, une seule personne gère désormais 4 machines.
Veuillez patienter, un assistant vient vous aider.
Par rapport à avant, en fait, on a moins de manutention. On ne porte plus les choses lourdes. En fait, c'est le client qui fait tout soi-même. On est juste là pour assister au client s'il y a un souci au niveau de la caisse.
Une technologie coûteuse, 15 000 euros pièce, mais pour le directeur du magasin, l'investissement rentabilisé en seulement 3 ans n'a que des avantages.
Pour le consommateur, ça va plus vite. Pour la caissière, on a enlevé la pénibilité. Et pour l'entreprise, nous avons doublé le nombre de caisses au mètre carré, ce qui va augmenter notre productivité et donc la rentabilité pour un meilleur discount.
Une nouvelle génération d'automates qui, pour les syndicats, fait peser une menace sur l'emploi des 150 000 caissières de la grande distribution.
Vous donniez tout à l'heure l'exemple de la caissière, et c'est vrai qu'il y a des travaux pénibles qui vont être supprimés, mais il y a aussi plus de productivité, c'est ce que disait ce patron de supermarché.
Oui, alors en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gains de productivité, en fait.
Et vous dites... Alors, temps de travail partagé.
Alors, je suis peut-être rêveur. Voilà, je suis rêveur, mais je ne peux pas être que négatif, je ne peux pas être que pessimiste. Donc, il y a aussi une promesse dans l'IA, quelque chose de sorte de l'espoir, qui est que ça nous permette de nous libérer du travail, de nous libérer de la pression de l'emploi, de la pression du travail, de l'impact que ça a dans nos vies. Et c'est vrai que si ces gains de productivité sont utilisés à bon escient, et si on le met au service de l'humain, alors oui, on peut se mettre à rêver d'une réduction majeure de la durée du temps de travail.
Ça veut dire quoi, majeure? Ça veut dire passer à 32 heures, voire
Vous savez, le philosophe Bertrand Russell, au siècle dernier, disait qu'avec tous les progrès technologiques, on pourrait arriver à travailler à peu près 10 à 15 heures par semaine. Donc ça, par exemple, c'est un espoir avec l'IA. Et l'autre espoir aussi, c'est potentiellement nous libérer du travail avec, par exemple, le revenu universel qui découlerait des gains de productivité qui découleraient de l'IA. Et nous permettre au fond de vivre dans une société qui serait plus centrée sur le bien-être et pas sur le travail, la productivité, la pression à la productivité permanente, qui est quand même aujourd'hui dans nos sociétés capitalistes quelque chose qui, quand même, d'une certaine manière, écrase beaucoup les individus et rend beaucoup de gens assez malheureux.
Il y a fallu que vous faisiez non avec la tête.
Le principe, je l'entends. Tout le sujet est de savoir quel est notre rapport au travail. Imaginez que la France est un village de 20 personnes. Dans ce village, vous avez des personnes âgées. Vous avez des enfants, vous avez des gens en incapacité de travailler. On invoque la solidarité pour dire que ceux qui sont en capacité de travailler pourraient travailler moins. Pour ceux qui qui ne travailleraient pas parce qu'ils choisiraient de ne pas travailler. La réalité, pour moi, la vraie solidarité, c'est toute personne en capacité de travailler doit travailler, moi, c'est mes valeurs à moi, doit travailler pour celui qui ne peut pas travailler, pas pour celui qui ne veut pas travailler. Tout gain de productivité, chaque point de productivité qu'on gagnerait avec n'importe quelle évolution technologique, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre chose, nous devons l'utiliser collectivement pour relever les défis écologiques qui sont devant nous, les défis démographiques qui sont devant nous, les défis technologiques qui sont devant nous. C'est pour ça qu'on doit l'utiliser, pas pour construire une société
qui doit travailler autant qu'on le fait aujourd'hui.
Pas pour la croissance qu'on appelle travailler dans un monde fini, malheureusement. Parce qu'on oppose travail, il faut travailler moins pour l'écologie. Il oppose travail et l'écologie. Il dit que parce qu'on travaille, c'est contre-écologique. Voilà. Pas du tout. Si on travaille différemment, si on crée plus de valeur, de manière plus intelligente, de manière plus respectueuse, de manière plus éthique, de manière plus écologique, ça marche.
Céline Antonin.
Et c'est pas la oisiveté qui va nous permettre de faire ça.
Moi, je défends aussi la valeur travail, mais c'est surtout, effectivement, on a deux choix. Vous faites des gains de productivité, soit vous continuez à avoir de la croissance, c'est-à-dire dans ces cas-là, vous travaillez, admettons, le même temps avec des gains de productivité. On a plus de croissance, ou alors vous dites je vais baisser le temps de travail. Effectivement, c'est un choix collectif. Moi, je pense quand même qu'on a malgré tout envie de financer notre protection sociale. On a envie de continuer à pouvoir distribuer du revenu aux gens, de s'enrichir par le travail. Et donc, je pense qu'on a quand même envie de continuer à avoir de la croissance. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on n'est pas un pays isolé. On est dans un monde où on a des concurrents. Et vous vous dites pendant que d'autres vont, grâce à l'IA, avoir des gains de productivité et par ailleurs continuer à travailler. Et donc, gagner des parts de marché, devenir plus compétitif. Nous, on va dire, à ce moment-là, on va baisser notre temps de travail, donc on sera moins compétitif. Et donc, on va perdre par rapport à nos concurrents. Donc, le raisonnement économique dit que malheureusement, si on fait ça, on devient moins compétitif.
Mathieu Salam, vous avez jusqu'à dire, à l'encontre de ce que dit Céline Antonin, qu'il faut organiser la société autour du travail, mais autour d'autres choses, comme le disait Dominique Méda, la sociologue. Est-ce que l'IA peut libérer cela? Enfin, ça paraît utopique.
C'est l'espoir qu'on peut avoir. Si jamais.